RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et nous sommes à 53 km de l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France qui va donc conduire le peloton jusqu'au Chalet Reynard, à 6 km du sommet du Mont Ventoux. Une situation de course un peu particulière aujourd'hui, car une échappée a pris le large en tête de course et possède encore 11 minutes d'avance. Mais 11 minutes, c'est plus vraiment la même que tout à l'heure, Fred Adam. Il y a une heure, lorsque nous avons pris l'antenne, ils avaient 18 minutes d'avance et cette avance fond comme neige au soleil du Ventoux.
Oui, elle disparaît comme le pollen dans le Mistral aujourd'hui. Il n'y a plus de pollen à cette époque de l'année, mais les secondes sont en train de disparaître parce qu'effectivement, à l'avant du peloton maillot jaune qui avait laissé couler cette échappée prendre le large, eh bien on visse avec les équipes, notamment Etix de Dan Martin ou Trek Segafredo pour le Hollandais Bauke Mollema. On visse et on profite du vent qui souffle de manière latérale de la gauche. C'est le Mistral qui souffle fort et qui a, on vous le rappelle, contraint les organisateurs à raccourcir l'ascension finale. On ne monte pas en haut du Ventoux, mais bel et bien jusqu'au Chalet Reynard seulement. Ascension amputée, pardon, de 6 km, 53 km à parcourir jusqu'à l'arrivée maintenant. 11 minutes d'avance pour 13 hommes échappés. 13 hommes dont 3 Français, Brian Coquart et Sylvain Chavanel chez Direct Energy et Cyril Lemoine chez Cofidis. De gros problèmes mécaniques dans ce groupe maillot jaune pour Fabio Aru qui vient de réintégrer l'arrière du peloton maillot jaune. On en reparle dans quelques instants.
Allez, on va retrouver Georges Quirino sur la moto RMC qui se trouve justement au contact des hommes de tête. Georges.
Oui, juste derrière les hommes de tête qui n'ont pas l'air hein, pour le moment en tous les cas d'avoir ralenti l'allure. Ils continuent de se relayer les uns après les autres. On a vu Cyril Lemoine, notamment le coureur français de l'équipe Cofidis, se positionner à l'avant il y a quelques instants. Le vent est toujours, on va dire, aussi important. Là, il souffle de côté pour les de côté gauche pour les coureurs qui voient en tous les cas devant eux sur la route énormément de monde aujourd'hui. C'est la fête nationale, c'est le 14 juillet, on voit beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. On a vu des pom-pom girls en bleu, blanc, rouge il y a quelques instants. Donc pour une des journées chaudes, il fait 26 degrés, mais pour une des journées où depuis le départ du Tour de France on voit le plus de monde, même en dehors des localités, pour encourager les coureurs du Tour de France qui se dirigent vers le Mont Ventoux, en tout cas le Chalet Reynard.
On va y aller justement au Chalet Reynard, là où se situe la ligne d'arrivée. Je vous rappelle que nous, dans notre camion aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la ligne d'arrivée en raison des problèmes de vent. Nous sommes à Vaison-la-Romaine dans la plaine. En revanche, nos reporters sont là-haut, ils attendent les coureurs, et en l'occurrence Pierre-Yves Leroux se trouve là-haut dans le Mistral. Et voilà de quoi le décoiffer notre pilou national. Salut Pierre-Yves.
Salut Christophe. Ça tient bon, mais vous entendez quand même le vent autour de moi. On est au sommet du vent, 1909 mètres. Où un cycliste vient de passer à l'instant avec un drapeau colombien. C'est pas ici qu'aura lieu l'arrivée. Le vent est un petit peu retombé, on a l'impression, par rapport à ce qui a pu avoir lieu hier avec des grosses bourrasques. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques moments où ça souffle dur. L'arrivée n'aura pas lieu ici, elle aura lieu un petit peu plus bas. Il fait 11 degrés au sommet avec bien sûr un ressenti inférieur, mais ce n'est pas l'hiver polaire, il faut le dire quand même. Il y a un beau soleil en plus, peut-être que l'arrivée aurait pu avoir lieu ici au sommet du Ventoux, mais il va falloir redescendre un petit peu de 6 km jusqu'au Chalet Reynard, et c'est là que vous pourrez avoir tout à l'heure les réactions des coureurs sous le soleil, en tout cas.
Voilà les véritables infos, parce que jusqu'à présent c'était un peu du fantasme. On nous annonçait des températures polaires, des températures négatives, mais effectivement Pierre-Yves qui se trouve au sommet nous dit que les conditions sont quand même jouables. On aurait pu faire jouer et faire disputer l'étape au sommet du Ventoux, Cyril. Voilà qui te conforte dans ton opinion du début d'étape.
Oui, mon opinion qui dit qu'il ne faut pas prendre les décisions trop tôt. Et que je pense qu'on a pris des décisions beaucoup trop tôt en tenant compte de la situation réelle. Hier soir à 16h, 17h, 18h, sans tenir compte de l'évolution climatique. Et effectivement, aujourd'hui, il fait 11 degrés et apparemment. Et j'avais tout à l'heure un tweet de David de Millard, qui est quand même pas n'importe qui, et qui disait que ils étaient montés en vélo, ouais. Tout simplement.
Oui, mais le Tour de France est le Tour de France et c'est la plus grande course du monde avec les plus grandes infrastructures qu'une course de vélo peut disposer sur le bord des routes. C'est une organisation gigantesque et c'est vrai que la moindre prise de risque doit être pesée, repesée, sous-pesée et on peut comprendre effectivement les organisateurs. C'est vrai que parfois on n'est pas tendre avec ASO, les organisateurs du Tour qui ont pris cette décision hier, mais on peut effectivement les comprendre. Car le Tour de France, c'est une logistique extraordinaire. Ce sont des camions, des véhicules par dizaines, par centaines à déplacer, à installer à un endroit et imaginer le moindre pépin. Parce que oui, il y a des rafales tout de même au sommet du Ventoux aujourd'hui. Imaginez le moindre pépin avec le moindre accident et la moindre vie mise en péril. Imaginez les responsabilités des organisateurs, quoi qu'il.
Quoi, les infrastructures, Fred, de toute manière ont été descendues ici à Vaison-la-Romaine, oui. Donc on aurait peut-être pu laisser la course se dérouler jusqu'en haut et laisser les infrastructures habituelles du Tour.
On n'était pas obligé de monter les cars VIP.
Oui, mais les barrières, pour protéger les coureurs du public.
Attends, il y a quelques années, il n'y avait pas de barrières et on n'avait pas de problème.
Hein. Ouais.
Maintenant, on a des problèmes parce que les barrières tombent. Avant, elles ne tombaient pas, il n'y en avait pas.
Là encore, il en va de la sécurité des coureurs.
Oui, mais avec 300 000 spectateurs sur le bord des routes, c'est vrai.
Non, c'est pas ça. La montée du Ventoux, c'est pas dangereux pour un coureur. Vous avez vu que c'était dangereux pour un coureur. Les coureurs, ils vont monter à 10, 12 à l'heure. Attendez, ils vont pas aller percuter une voiture à 80, c'est pas la descente.
Non, on parle des spectateurs
sur le bord de la route. Ils sont très pressants autour des
coureurs. Tous les ans, on a des millions de spectateurs sur le bord de les routes. Dites-moi combien il y a d'accidents.
De toute façon, les deux options sont discutables, auraient probablement pu être tenues, mais la décision qui a été prise hier en toute précaution et avec les autorités, parce qu'il faut aussi mettre les autorités
et
la préfecture dans le coup. Ça a été une décision concertée. Sachez, messieurs, et Cyril est bien placé pour le savoir, qu'on n'organise pas de course cycliste sans l'aval et sans le soutien des préfectures. On a besoin des forces de police. Et lorsque le préfet recommande quelque chose après avoir survolé le Ventoux en hélicoptère, comme ce fut le cas hier, eh bien, quand on est organisateur, moi, je comprends qu'on ait envie d'écouter ses recommandations et de ne pas se le mettre à dos. Parce que
On met les parapluies.
Si le lendemain il y a un pet, eh bien.
C'est pas un hélicoptère qu'on peut juger si on peut faire du vélo 24 heures après.
Oui, c'est bien pour cela que je rappelle que c'est la plus grande course du monde qui est diffusée dans plus de 190 pays dans le monde et la moindre prise de risque doit être vraiment pesée.
Parce qu'on pouvait juste monter. Regardez, vous avez un classement qui a été fait il y a quelques jours aux 3 km parce qu'il y avait l'arche du dernier kilomètre qui s'était effondrée. Bon, il y avait une caméra et une photo finish aux 3 km. On a fait le classement aux 3 km. On pouvait mettre ce qu'on met d'habitude aux 3 km. On pouvait très bien le mettre en haut et il n'y avait aucun problème d'infrastructure.
Bon, bref, de toute façon, la décision a été prise.
On ne reviendra pas en arrière aujourd'hui.
Du Ventoux, ce serait compliqué.
Mais il y aura un débat.
Jérôme, on ne peut pas remettre l'arrivée là-haut, là, non?
Je vous disais tout à l'heure, on a essayé il y a quelques années au départ en Corse à cause du bus Éric Agrenet. C'était la catastrophe. Une grosse chute, tout le monde
ne peut plus rien changer maintenant.
C'est très bien, la décision elle tombe et on doit respecter ça. Et ce matin, comme disait tout à l'heure Simon Fourcade, au moins les coureurs le savaient tous, on sait où on part, on sait où on arrive, la ligne d'arrivée elle est là et les coureurs doivent faire avec ce qu'on leur dit. Et ça sera un beau spectacle si les coureurs veulent bien donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est ce qu'ils feront sans aucun problème. Et on ne montera pas là-haut, ils étaient tous très contents et Nairo Quintana le premier, puisque hier il s'est déjà plaint du vent. Donc,
C'est Eric Brunet qui doit
qui doit jubiler.
Doit être en colère.
Et
d'ailleurs.
pour conclure avec cette histoire de barrière, hier, sachez que quand je suis arrivé moi avec cette randonnée à une forte vitesse, d'ailleurs, eh bien, c'est rire.
11 kilomètres.
Mais très vite.
Avec un vélo trop petit, avec le verre trop grand.
Une courbature terrible ce matin, GG.
C'est pour ça que je suis allé courir à 5h du matin. Tout ça pour dire que dans les derniers kilomètres hier, quand je suis passé moi, eh bien on s'affairait et un peu sous la panique parce que effectivement toutes les barrières qui étaient du 3e au 2e kilomètre étaient tombées du côté droit.
Mais le problème c'est que sur ces barrières, la plupart du temps on met des panneaux publicitaires.
Oui, mais Cyril, il faut de la pub. Comment veux-tu
mais
faire
t'es pas obligé dans une arrivée mythique comme ça de mettre tous les panneaux publicitaires. C'est quand même la course qui est prioritaire. Panneaux publicitaires.
Alors demande aux sociétés qui payent une fortune pour mais le non, tour. Attends, le
parce
14
que,
juillet,
qu'on va les voir aujourd'hui leur publicité.
Bien sûr, qu'on va les voir.
Mais on va rien voir du tout.
Et ce débat est sans fin puisqu'on aborde là le gigantisme du Tour de France, un monstre à plusieurs têtes, qu'elle soit sportive, économique, médiatique. On pourra en discuter pendant des heures. Effectivement, le Tour, c'est le Tour, et au mois de juillet, ça occupe la place, une place très très importante.
Allez, on va retourner à l'avant de la course avec la moto RMC Georges Quirino qui s'approche petit à petit des premières pentes du Ventoux. Georges.
Oui, et des premières pentes tout simplement du jour derrière les 13 échappés où on passe dans le magnifique village de Gordes, ici baigné sous le soleil avec les spectateurs le long de la route, et on se rapproche de la première difficulté de la journée, une difficulté de quatrième catégorie, la côte de Gordes, 3 km 300 à 4,8% de pente moyenne pour les hommes de tête qui poursuivent leur effort. On est sous un ciel bleu, j'entendais Pierre-Yves parler tout à l'heure des conditions au Mont Ventoux et dire que ça allait bien aujourd'hui. On rappelle que ce matin, en discutant avec les organisateurs du Tour de France, ils nous ont montré les dernières informations qu'ils avaient de Météo France, qui leur disaient qu'à 15h, les rafales allaient reprendre et qu'on allait avoir des rafales jusqu'à 120 km/h là-haut. Quand Météo France leur dit le matin jusqu'à 120 km/h de rafales, je pense que le principe de précaution bien a sûr. Été plutôt... bien pensé par les organisateurs du Tour. Et juste un mot peut-être pour continuer, vous parlez de Nairo Quintana tout à l'heure, Nairo Quintana qu'on a vu ce matin et qui nous a redit sa tristesse de voir cette ascension rabotée, on va dire, parce qu'il dit moi le sommet me convenait bien, la dernière partie me convenait bien. Donc on comprend plus très bien l'esprit schizophrène de Nairo Quintana qui hier se plaignait du vent et de la sécurité qui était un peu pas réfléchi par les organisateurs et qui aujourd'hui aurait bien voulu monter en haut du Mont Ventoux malgré le vent. Voilà donc l'état d'esprit de la formation Movistar ce matin au départ. Les 13 coureurs de tête, eux, sont en train de se rapprocher de la première difficulté du jour.
Ok Georges, on va rester avec toi car c'est l'heure de la carte postale du jour. Tu vas nous dire un peu tu vas nous raconter les quelques histoires qui ont meublé ces ascensions répétitives vers le sommet du Ventoux. C'est l'heure de la carte postale.
Partout en France, ERDF devient Enedis, la carte postale des régions avec Enedis, l'électricité en réseau.
Alors Georges, le Ventoux évidemment, c'est un endroit mythique de ce Tour de France.
Exactement, et c'est la dixième fois que le Tour arrivera là-bas, si on compte le Neuchâtel Arena comme étant une arrivée au Mont Ventoux, évidemment, à 1912 mètres d'altitude, donc c'était l'arrivée au Mont Ventoux. On arrive à 1435 au Chalet Reynard. La première fois que l'on a gravi ce Mont Chauve, hein, puisqu'on a la forêt en haut, et lorsqu'on arrive au Chalet Reynard, c'est un paysage lunaire, sans arbres, avec uniquement des pierres blanches à côté. Le géant de Provence, donc, qui a accueilli une arrivée pour la première fois, c'était en 1958, lors d'un chrono, c'était Charlie Gaulle qui s'était imposé. En 1965, on a même eu une victoire de Raymond Poulidor, hein, voilà, pour ceux qui pensent que Raymond Poulidor ne gagnait jamais. Et bien lui a gagné au sommet du Mont Ventoux. Parmi les victoires les plus mythiques, il y a eu celle de 1987, le contre-la-montre remporté par le français Jean-François Bernard. Et d'ailleurs il y a hier matin on était avec Pierre-Yves Leroux qui fait partie de l'équipe de Intégral Tour, également rencontré Jean-François Bernard qui nous racontait que des années encore plus tard, alors qu'il vient parfois dans la région pour acheter du vin, voilà, on va pas vous mentir, il nous disait qu'il montait à chaque fois au Mont Ventoux pour récupérer des pierres du Mont Ventoux, de l'endroit où il a gagné, cet endroit mythique, pour les donner à ses amis. Voilà donc pour cette ascension mythique. Le dernier Français à s'y être imposé, c'était Richard Virenque en 2002, et notre souvenir personnel, on va dire à Marco et à moi, le dernier c'était en 2013 évidemment, lorsque l'on avait dans la roue un maillot jaune Christopher Froome et Alberto Contador, lorsque nous étions déjà sur ce paysage lunaire et que l'on avait dû accélérer sensiblement car nous avions la mobilette Christopher Froome derrière qui revenait dans nos échappements. Ça avait causé un sacré c'était assez terrible, les voitures qui avaient du mal à avancer pour laisser de l'espace à Chris Froome qui avait passé une attaque violente. C'est la montagne Froome, aujourd'hui l'un des endroits où il s'est révélé en tous les cas au grand public lors de sa première victoire sur le Tour. En 2013 il avait lâché Contador, et plus loin il avait avait lâché déjà un certain Nairo Quintana.
Et parmi les autres moments mythiques, mais dans le drame cette fois-ci, on se souvient, Cyril, enfin tu t'en souviens parce qu'on était trop petits, enfin Jérôme et Fred n'étaient pas nés, moi j'étais tout petit et toi tu étais un coureur déjà en plein devenir, 1967, donc la mort de Tom Simpson sur les pentes du Ventoux. Il n'était pas décédé à cause du vent, mais à cause de la chaleur et à cause de quelques produits ingurgités. Enfin, on n'a jamais su exactement, et on a parlé d'amphétamine, d'alcool. C'est des images terribles, évidemment, qui restent dans toutes les mémoires, Cyril.
Les produits, sur l'histoire des produits, on peut en parler. Il faut quand même savoir qu'après autopsie, l'assurance a payé l'assurance vie.
Donc ça veut
donc
dire
qu'on peut se poser des questions sur et si on n'a pas utilisé ça pour d'autres choses. Mais c'est vrai que dans ce Tour 67, je n'y étais pas, mais j'étais dans le petit Tour de France qu'on appelle le Tour de l'avenir, qui à l'époque précédait le Grand Tour.
Donc précédé de quoi? De quelques jours?
Non. À partir du moment quand il y a eu l'étape du Ventoux, nous on avait une étape du côté de Toulouse, puisque on passait aussi la deuxième étape, le Portet d'Aspet, c'est-à-dire que la deuxième étape on se retrouvait avec le Tour. La première étape était en circuit, c'est un circuit dans les Pyrénées, mais sans grande difficulté. Et ensuite on précédait donc le Tour jusqu'à Paris. Et donc la mort de Simpson correspond au moment où nous prenait le départ du Tour de l'avenir. Alors oui, ça nous a tous fait un choc quand même, parce que un coureur qui meurt sur les pentes du Ventoux ou d'un col quel qu'il soit, ou et puis on pourrait dire aussi même s'il se tue avec une chute dans une descente, le résultat est le même. Mais effectivement, c'était le Ventoux avec ce côté dramatique, en disant mais est-ce qu'il fallait monter le Ventoux avec la température, etc.
Oui, parce que là ce jour-là il faisait très très chaud,
hein, très chaud.
L'inverse d'aujourd'hui.
Mais à l'époque, il fallait quand même savoir, c'est que le ravitaillement était interdit. Ça veut dire que si vous preniez un bidon en dehors de la zone de ravitaillement, vous étiez mis hors course. Donc vous ne pouviez prendre que à la zone de ravitaillement des bidons. Mais était autorisé ce qu'on appelait la canette, chasser la canette. Et c'est ce qu'ont fait les coureurs, enfin, ou un certain nombre de coureurs.
Tu chassais les canettes, allais les piquer aux spectateurs qui étaient sur le bord de la route.
Les piquer, les spectateurs vous les donnaient. Non, non.
Oui, la canette qui est la femelle du canard, hein.
Oui. Donc, vous ravitaillez, mais comme c'est encore le cas aujourd'hui, les spectateurs qui vous tendaient des bouteilles d'eau. Et puis, vous vous arrêtiez éventuellement à la terrasse des cafés. Et là, bon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, Simpson aurait bu effectivement un peu d'eau, mais également un peu d'alcool.
Voilà.
Et puis ce qui ne l'a pas empêché effectivement de souffrir de déshydratation et donc de s'écrouler à quelques kilomètres du sommet.
Déshydrate. Mais oui,
savoir, messieurs.
Bien c'est bien Jérôme, bien
c'est
sûr.
C'est pour ça que tu es complètement déshydraté depuis le début de ce Tour de France. Très bien, 45 km 300 de l'arrivée, les hommes de tête qui sont dans l'ascension de la côte de Gordes, l'un des plus beaux villages de France,
oui.
dans le Vaucluse. Et ensuite on prendra la direction du Mont Ventoux à faire un point rapide de la course avec l'avance qui continue de se réduire. Fred, vont-ils conserver assez d'avance pour aller disputer la victoire d'étape tout à l'heure au Chalet Reynard?
Eh bien, il est permis d'en douter, puisqu'effectivement, l'avance n'est plus que de 9 minutes. Elle était de 18 minutes il y a une quarantaine de kilomètres. 18 minutes pour ces 13 hommes de tête qui viennent de passer donc à Gordes, avec passage en tête du Belge Thomas De Gendt, qui est l'un des concurrents de Thibaut Pinot pour le classement par points. 9 minutes d'avance donc du classement du meilleur grimpeur, pardon. Le regard de Cyril Guimard m'a fait corriger cette erreur illico presto. 9 minutes 15 d'avance pour ces 13 coureurs, effectivement, avec, on vous le rappelle, la présence dans ce groupe de tête de bons grimpeurs comme Serge Powels, le Belge de l'équipe Dimension Data, son équipier érythréen Daniel Teklaimanot, De Gendt, donc le Belge de l'équipe Lotto Soudal, les trois Français Brian Coquart, Sylvain Chavanel et Cyril Lemoine, à surveiller et à cocher également pour la victoire d'étape, Dani Navarro l'Espagnol, ainsi que le Norvégien ou Danois Chris Anker Sorensen, le coureur de l'équipe Fortuneo Vital Concept.
Tiens, et Jérôme Pinot, qui connaît bien évidemment particulièrement bien la France et tous ces endroits mythiques sur lesquels nous passons, connaît bien Gordes, qui est la capitale
du sextoy.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Gordes. C'est premier. On a inventé les premiers sextoys ici à Gordes.
D'accord, très très bien.
Il est je la comprends fort. Pas celle-là.
Non, tu n'as pas à comprendre.
C'est la vérité, voilà. C'est historique.
C'est
on le sait.
Je ne sais pas si les habitants de Gordes.
Jérôme est un spécialiste en la matière.
Il connaît tout de l'histoire de ces objets. 44 km 200 de l'arrivée. On revient dans quelques instants sur la route du Tour. Plus que 9 minutes d'avance pour les hommes de tête. Derrière, ça chasse très vite. Et le géant de Provence se dresse devant les roues des coureurs du Tour de France. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC jusqu'à 18h Intégral Tour, Christophe Cessieux.
43 km de l'arrivée au Chalet Reynard tout à l'heure pour les hommes de tête dont l'avance continue de régresser, qui n'ont plus que 8 minutes 30 d'avance et que ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu, hein, Cyril Guimard, pour ces hommes de tête. On le disait tout à l'heure, il leur faudrait à peu près 6 minutes au pied du Ventoux. Ils ne les auront certainement pas.
C'est cuit parce que derrière, depuis déjà on va dire 40 kilomètres, un peu plus de 40 kilomètres, la poursuite a été engagée par des équipes dont on sent très bien que ils veulent la victoire d'étape, et c'est le cas de l'équipe Etix, et ce qui veut dire que Dan Martin doit se sentir bien parce qu'il a mis pratiquement toute l'équipe à la barre pour réduire cet écart. Et d'ailleurs il n'est pas le seul, puisque on trouve également les BMC de Richie Porte, ce qui veut dire que l'échappée, elle est condamnée. Actuellement il lui reste un peu plus de 8 minutes d'avance. On a encore 30 km avant d'arriver au pied du col. Donc je suis désolé pour les supporters des coureurs qui se trouvent à l'avant. Circuler, il n'y a plus rien à voir.
Oui. Vous parlez des Etix Quickstep de Dan Martin, qui sont relayés en ce moment par les coureurs de la formation australienne Orica Greenedge, Simon Gerrans en particulier. Orica Greenedge, rebaptisé Orica Bike Exchange, hein, ça il faut le savoir, et c'est tellement compliqué de suivre les évolutions et les changements de nom que c'est gentil de nous pardonner certaines imprécisions parfois, simplement pour signaler que l'équipe australienne qui a remporté une étape avant-hier par l'intermédiaire de son sprinter Michael Matthews met des billes sur Adam Yates, son coureur britannique, maillot porteur blanc. Du maillot blanc de meilleur jeune, deuxième du général, qui pointe ce matin à 28 secondes de Christopher Froome. Eh bien ce n'était pas l'objectif révélé, avéré, annoncé par l'équipe australienne, mais après 11 étapes, eh bien on a décidé de donner le leadership à Adam Yates et de lui donner des responsabilités, de mettre des hommes à son service.
Un mot justement sur ce jeune coureur qui est pour l'instant porteur du maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France, deuxième au classement général. Il est quand même surprenant, parce que l'autre jour dans les Pyrénées, ou un peu plus tôt dans le Massif Central, il s'est accroché à la roue des meilleurs, et il ambitionne maintenant, pourquoi pas, d'aller faire un podium sur les champs.
Oui, il est là, il est en position, il est derrière Chris Froome. C'est un très bon coureur, un très jeune coureur. Ils sont deux jumeaux, Simon Yates et Adam Yates. On a beaucoup plus entendu parler de Simon pour le moment. Il a eu des petits soucis d'ailleurs avec une suspension, avec apparemment plutôt un problème médical de prescription qu'autre chose. C'est dommage pour lui, parce que c'était aussi un très bon coureur et une très bonne carte pour Orica. Quoi qu'il en soit, Adam Yates fait un très beau début de tour, et c'est l'un des seuls à pouvoir accompagner les meilleurs dans la montagne entre le jour, dans le Massif Central, dans les Pyrénées. Il est là, et finalement
même quand il prend une arche du dernier kilomètre sur la tête, ouais, parce qu'on se souvient que c'était lui au lac de Payol qui avait chuté et qui s'était ouvert le menton le jour de la victoire de Stephen Cummings. Eh bien, les points de suture ne lui ont pas coupé les jambes.
Non, du tout. Il a vraiment une très grande condition, et quand on voit un coureur comme Simon Gerrans se mettre à la barre pour lui, vu le rythme qu'il met, c'est qu'on doit être en confiance du côté du jeune Adam Yates, et pourquoi pas, hein, on l'a vu, comme on le dit depuis le départ, dans les Pyrénées, il n'y a pas vraiment de coureur au-dessus des autres, et il se dit, eh ben, pourquoi pas moi. Et il a raison, parce que aujourd'hui c'est une étape qui est faite pour lui, 9 km avec des pentes à 9, 10, 11%. On va sûrement voir Adam Yates attaquer, de même que Dan Martin, pour faire plaisir à Cyril, qui lui est aussi fait beaucoup bosser son équipe.
Et on a pour l'instant un podium sur le Tour de France qui est 100% britannique. 100% britannique, ouais, si on peut qualifier les Irlandais de britanniques.
Anglo-saxons.
Voilà.
Et oui, Adam Yates qui avait terminé 50e du dernier Tour de France, quand même, c'est une sacrée progression.
Oui, à 22 ans.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre 22 et 23 ans, c'est là qu'on progresse le plus.
Ouais. On prend de la maturité, mais on l'avait déjà vu dans d'autres courses.
Oui, il a remporté mais le Tour de France.
Pour la petite histoire, il faut savoir que ce coureur a été formé en France.
C'est l'étape.
Non, c'était sa dernière année. Mais avant, il était à 3, juste à la sortie de, à la sortie des juniors. Il était d'ailleurs avec quelqu'un que le monde cycliste connaît bien, avec Jacques André. Jacques André, qui était aussi le mentor des frères Simon. Et donc, pendant 2 ans, il a travaillé avec Jacques André. Ensuite, il est parti à Etup.
Oui. On n'en parle pas.
Enfin, les frères.
Hein. Les frères, on n'en parle pas beaucoup. Mais vous savez, moi, j'ai dans cette idée-là d'avenir, du futur du vélo et du cyclisme, ce qui ferait le plus grand bien à ces clubs-là et à nos équipes professionnelles aussi, c'est d'instaurer peut-être, messieurs à l'UCI s'ils nous entendent, d'instaurer le droit à la formation comme on a chez les footballeurs. Parce que imaginez-vous un club comme le CC Etup qui chaque année galère pour boucler le budget, qui est un tout petit budget pour une équipe qui est un club familial à la base, où des gens travaillent formidablement bien, puisque, alors une fois j'ai cité Arthur Vichot, non, Arthur Vichot arrive du CC Roanne, mais le CC
CR4C Roanne
qui a sorti énormément de coureurs.
Etup, c'est Barguil, c'est Pinot, c'est le petit Guillaume Martin qui est à l'heure actuelle chez Groupe Gobert.
C'est les frères Yates.
Il y a énormément de coureurs. Le nouveau champion de Suisse, Jonathan Fumeau, est passé par le CC. C'est énormément de coureurs qui passent par là. Et quand ces coureurs s'en vont de cette équipe-là, qu'elles vont très jeunes dans des équipes pro, les clubs, eh bien, ils ont le droit d'être contents, d'être fiers, et basta. Ouais. Il n'y a pas de transfert dans le vélo, il n'y a pas de droit à la formation.
Je pense que tu vas te mettre à dos quelques Bretons quand même.
Parce
que Varenne est parti à Etup, il avait déjà signé son contrat et il a été formé en Bretagne.
Il a fini sa formation. Non, mais je cite Etup, Cyril, mais je pourrais citer d'autres clubs.
Non, mais faut t'excuser, Vendée, faut t'excuser Pays de la Loire, pour les dirigeants bretons. Il faut t'excuser, sinon tu vas être mal la prochaine fois qu'on traverse la Bretagne.
Tous les clubs bretons. Ce que je veux dire, c'est que le fond de ma pensée, c'est celui-là, c'est pas tel ou tel club qui est important, c'est de savoir que les clubs français se galèrent pour former des jeunes, et que quand ces jeunes s'en vont et deviennent très riches, et certaines équipes s'enrichissent grâce à ces jeunes coureurs, derrière on n'a rien et financièrement c'est très difficile pour eux.
Eh bien, voilà qui est dit, et bien dit par Jérôme Pinot. 38 km 500 de l'arrivée, Fred, on fait un point et ensuite on ouvre la musette du jour, le top course.
Avec 13 hommes en tête entre la côte de Gordes et le col des Trois Termes, à moins qu'on soit déjà dans la descente du col des Trois Termes en direction de Mazan. En tout cas, on file, c'est bien le cas, on file vers Bédouin, pied de cette mythique ascension du Mont Ventoux, un Mont Ventoux qui sera effectivement escaladé de manière partielle, puisque amputé de ses 6 derniers kilomètres, on vous le rappelle, le groupe de tête qui est dans la descente du col des Trois Termes, les deux premières petites difficultés de la journée ont été avalées par grand vent, on vous le rappelle, et il y a toujours une avance assez confortable avec 8 minutes au dernier pointage entre la tête de course emmenée notamment par le Belge Ijo Kaïs, le coureur de l'équipe Etix Quickstep, mais aussi trois Français, Brian Coquard et Sylvain Chavanel, ainsi que Cyril Lemoine. Je ne sais pas pourquoi Jérôme se marre, ça doit être ma prononciation de Ijo Kaïs, le coureur belge de l'équipe Etix Quickstep, qui était un équipier.
Comment dire
C'est parfait comme ça.
C'est parfait, on touche à rien. Notons la présence également dans ce groupe de tête de Dani Navarro, l'Espagnol, de Christian Kjær Sørensen, de Daniel Tekla Imanot et Serge Powels pour l'équipe Dimension Data, des excellents grimpeurs qui pourraient aller remporter la victoire d'étape au Chalet Reynard. 37 km à parcourir, dont les 10 derniers en montée à plus de 10% de déclivité, 7 minutes 55 au dernier pointage sur le groupe maillot jaune, toujours emmené par les Sky et Simon Gerrans, le coéquipier du maillot blanc à Damietz.
Et le vent qui continue de souffler sur la route du Tour de France aujourd'hui, mais le vent beaucoup moins prononcé qu'on nous l'annonçait. On vous rappelle que les conditions météo ont contraint les organisateurs à baisser l'arrivée à 6 km du sommet du Mont Ventoux. 37 km de l'arrivée, c'est l'heure, messieurs, d'ouvrir notre petite musette du jour.
RMC Intégral Tour, la musette.
Et on va tout de suite aller sur la ligne d'arrivée, le Chalet Reynard, où se trouve Pierre-Yves Leroux, qui va nous donner sa petite musette, ses petites infos du jour, infos décalées ou pas seulement décalées d'ailleurs. Pierre-Yves, alors, qu'as-tu à nous raconter?
Eh bien déjà, pour te dire qu'on est effectivement arrivé sur cette ligne d'arrivée après le passage au Mont Ventoux. Et puis, tu le sais très bien que l'équipe RMC brillante là pour tout ce qui est pour s'adapter au niveau technologique, parce que c'est assez impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire pour qu'on soit en direct de la ligne d'arrivée. Eh bien, on est aussi, on a gardé une âme d'enfant et on aime bien faire des blagues de temps en temps. Et hier soir, Christophe Cessieux, qui anime les après-midi, a eu le droit à une petite blague puisque nous étions invités dans une soirée très sélecte et on lui a fait croire que
si on pouvait lui couper le sifflet, on va lui couper
et
le sifflet.
Il est arrivé dans la salle avec un maillot à pois en croyant que c'était une soirée déguisée. Il était tout seul, tout le monde le regardait évidemment. Donc le maillot à pois est sur les épaules de Christophe Cessieux et on a fait réagir évidemment Marc Madiot parce que Thibaut Pinot n'a plus le maillot à pois. Marc Madiot très surpris évidemment, mais qui connaît les capacités de rouleur et de grimpeur de Christophe Cessieux.
Il l'a piqué à Thibaut Pinot, mais c'est pas un titre usurpé. J'ai eu la chance de croiser par le passé, qui s'éloigne de plus en plus malheureusement, Christophe Cessieux, et il est dans le peloton de tête des meilleurs grimpeurs.
Donc ça ne te surprend pas qu'il soit...
Non, pas du tout, non. Même si son gabarit est un peu trompeur, c'était un excellent grimpeur.
Tu peux le ramener à Paris, tu penses?
Oh, je pense, sans problème. Dans ses meilleures années, il l'aurait ramené à coup sûr.
Merci.
On
Marco.
Verra,
merci,
il reste Marco. Encore un peu de temps.
Voilà, c'est le maillot à pois, mais POIDS hein, pour moi. C'est pas. Ouais, on rajoute un petit dé quand même. Hein.
Tu voulais une musette décalée.
Oui, oui. Hop, voilà. Ouais, merci Pierre-Yves. Je crois qu'il y a eu d'autres interviews réalisées ce matin. Quand on récupérera Georges, je pense qu'il va nous faire une autre surprise. Merci Pierre-Yves, ça fait plaisir, mais je vous retiens, hein, messieurs, pour m'avoir rendu bien ridicule hier lors de l'arrivée dans ce restaurant plutôt select où j'ai fait effectivement pas le figure avec mon maillot à pois. J'ai failli mettre c'était les grosses lunettes Chris hein, en plus. Hein.
Et c'était en plus au dernier moment, c'était le jour de ton anniversaire en plus.
Oui, en plus, surtout c'était mon anniversaire. C'est tous les jours l'anniversaire de quelqu'un, de
c'est magnifique.
Sur les routes du Tour. On prendra des nouvelles aussi d'un coureur qu'on connaît bien tout à l'heure dans la musette. Alors, merci Pierre-Yves, à tout à l'heure. Qui a une petite musette à nous livrer? Peut-être que Cyril a des infos à nous donner, lui qui surveille évidemment, qui lit tout et qui sait tout sur la route du Tour. Cyril, une petite musette.
Eh bien, une musette, non, c'est plutôt... une réflexion très profonde bien sûr concernant Peter Sagan, coureur de 26 ans et qui a fait un certain nombre de remarques et qui a surtout fusillé un petit peu les jeunes. Je rappelle qu'il a 26 ans, donc il a dû lui oublier. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, il a dit que les jeunes n'avaient plus de respect, cassaient les codes,
venaient frotter régulièrement,
qu'ils venaient frotter alors qu'il ferait mieux de rester en queue de peloton. Or, je me suis quand même à ce moment-là rappelé qui était Peter Sagan lorsqu'il est arrivé il y a 5 ans sur son premier Tour de France. Donc il a oublié que sur ses premières années, il a remis en cause toutes les hiérarchies, y compris par son comportement. Alors, rappelez-vous les critiques qui l'accompagnaient, qui ont suivi surtout ses premières victoires d'étape sur le Tour. Il chambrait, il cassait les codes, y compris les anciens, et tout le monde le fusillait. Le problème, c'est que quand on est jeune et qu'on remet en cause, c'est normal, mais quand on a pris le pouvoir, on n'accepte plus effectivement qu'on remette en cause le pouvoir que tu as pris. Alors je voudrais dire à monsieur Sagan qu'il n'oublie pas que les jeunes ont besoin aussi de s'imposer et d'aller frotter les anciens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on prend le pouvoir.
Voilà, la défense des jeunes coureurs qui effectivement ont envie de se faire une petite place au soleil.
On peut lui dire qu'il continue à nous régaler par contre.
Oui, évidemment.
Et qu'il a été jeune lui aussi.
Voilà.
Il s'en souvient. Non, Cyril est un adepte de cette politique qui tend à lancer les jeunes dans le grand bain sans forcément attendre, sans les cramer comme on a l'habitude de le dire dans le jargon cycliste, sans les griller physiquement, mais en leur en leur donnant les coups des franches, en leur donnant les responsabilités. Cyril a l'habitude de déceler les talents très jeunes, les potentiels, car il répète que c'est bien dans les gènes qu'on trouve un champion, et le talent n'attend pas le nombre des années, comme on dit.
Très bien, voilà pour la musette de Cyril Guimard. La moto RMC, Georges Quirino, va-t-il me réserver lui aussi une petite surprise? Ça m'étonnerait pas, puisqu'il est quand même l'instigateur de cette blague de très très mauvais goût, Georges, sur la moto RMC.
Non, pour vous parler d'une scène assez cocasse qu'on a vécue ce matin à Montpellier tout de même. Alors, sachez qu'il y aura un coureur qui va...
Pardon, Georges. Trois coureurs de l'équipe Sky. Effectivement, j'observais dans cette descente du col des Trois Termes des trajectoires qui étaient bien, bien curieuses avec effectivement un coéquipier. C'est Yann Stannard, la machine à rouler de l'équipe Sky qui est allé au sol, tout comme Simon Guérin. C'est Simon Guérin qui, dans un virage à gauche, a glissé de l'avant et qui est allé s'empaler sur le muret de protection. Il a effectivement emmené Yann Stannard. C'est passé très près pour le maillot jaune Christopher Froome, puisque trois de ses équipiers ont été ralentis dans cette chute. On est encore à 40 km de l'arrivée. Simon Gerrans, l'ancien porteur du maillot jaune, l'ancien vainqueur de classique, lui qui emmenait le groupe maillot jaune pour protéger et préserver les intérêts d'Adam Yates, est allé au sol. Il devrait repartir, mais son maillot est tout déchiré. Les Sky sont à terre et le peloton maillot jaune attend. Et
exactement, sous l'ordre de Chris Froome en personne, le maillot jaune qui a demandé à tout le monde de freiner et qui s'est arrêté sur le bord de la route, Cyril. Hein. C'est lui le patron, évidemment.
Il a fait très bien parce qu'il sait qu'il y a quand même trois équipiers derrière. C'est important pour lui. Ce qu'il aurait fait pour trois coureurs de Movistar, je n'en suis pas certain. Et en plus, il s'est posé sur le côté pour aller faire un besoin naturel.
Oui.
Bon. Donc tout ça, c'est quand même assez... mais c'est bien fait, c'est bien fait. Tout le monde s'arrête, voilà.
Non, c'est la nouvelle tradition dans le peloton depuis quelques années. On se souvient évidemment de Cancellara qui avait demandé aussi au peloton de s'arrêter dans une descente il y a quelques années. Jérôme, ton avis là-dessus, est-ce que lorsqu'il y a une chute qui frappe non pas des anonymes, mais c'est pas un leader qui est tombé là en l'occurrence, mais ça peut fragiliser effectivement le leader.
Ce sont les trois équipiers.
Trois équipiers.
Jérôme. Non, il y a pas de règle, mais c'est vrai qu'il y a des codes qui sont respectés et ça fait partie des codes. On n'attaque pas un leader qui a perdu ses coéquipiers, on attaque surtout pas sur chute. Simon Gerrans était en train de faire un travail énorme. Rien n'empêche de Movistar d'essayer d'accélérer, hein, mais il risque de se faire punir dans les jours prochains. Et puis c'est pas très fair play. Alors le fair play, c'est comme le panache, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup dans ce milieu, mais ça existe aussi. Et sur chute comme celle-ci, surtout venant d'un coureur à l'avant du groupe qui menait le groupe, c'est quand même pour en plus la chute a été spectaculaire. Donc on a un peu peur.
Expliquez-moi pourquoi ils ont pas attendu Arou tout à l'heure, qui va sans doute se prendre une prune.
Arou, il est pas tombé, il a cassé le vélo.
Il a été dépanné une première fois, puis une deuxième fois.
Oui, mais là c'est pas nage, Cyril, là, quand tu es derrière.
Ils auraient pu attendre Arou aussi, hein.
Non.
Ah ben non, faut pas attendre Arou.
En tous les cas, le peloton maillot jaune est à l'arrêt dans la descente, là, et du coup, les hommes de tête reprennent un petit peu de champ, Fred, puisque l'écart est remonté d'une minute, hein.
Oui, 8 minutes 35 à 30 km de l'arrivée. La tête de course bientôt dans Mazan. On est sur les routes ensoleillées du Vaucluse. Effectivement, à quelques encablures du début de l'ascension finale, dans une vingtaine de kilomètres, bientôt Bédouin, pied du géant de Provence, derrière le groupe des favoris. Christopher Froome est revenu de sa pause pipi avec trois équipiers: Kirienka, Geraint Thomas et Sergio Henao. Yann Stannard n'est pas reparti, en tout cas pas assez vite, tout comme Simon Gerrans, la principale victime de cette chute.
Allez, il est 15h47, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'intégral tour et nous allons poursuivre notre musette avec Georges Quirino qui a des informations à nous donner sur un coureur qu'on connaît bien évidemment dans l'intégral tour depuis des années et qui a aujourd'hui envie de marquer, de frapper les esprits. On revient dans un instant sur la route du tour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, intégral tour, Christophe Sessieux.
28 km de l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France dans l'ascension du Mont Ventoux au Chalet Reynard, puisque vous le savez, l'étape a été tronquée les 6 derniers kilomètres en raison du vent, le vent qui continue de forcir, mais c'est pas non plus complètement injouable aujourd'hui. On aurait peut-être pu faire jouer cette étape jusqu'au sommet du Ventoux. 27 km 800 de l'arrivée. Fred, on va faire un nouveau point avec ce fait de course il y a quelques instants, la chute d'un des coéquipiers de Chris Froome qui du coup a fait ralentir le peloton maillot jaune, puisque Chris Froome micro avant. Personne n'a demandé à tout le monde de stopper ou de freiner en tous les cas.
Oui, trois équipiers de la formation Sky qui sont allés au sol dans la roue de Simon Gerrans qui menait le peloton maillot jaune dans la descente du col des Trois Termes en direction de Mazan, l'Australien ancien vainqueur de Milan-San Remo notamment. Simon Gerrans qui est allé au sol dans un virage à gauche, sa roue avant a chassé, il a perdu le contrôle et est allé s'empaler sur les rails de protection et emmené trois coureurs qui précédaient de peu Christopher Froome. Froome a eu chaud et du coup il a bien demandé, intimé l'ordre presque à ce groupe de favoris d'attendre le retour de ses équipiers et pour forcer la main au Movistar, au BMC et aux Orica. Et bien il s'est arrêté pour satisfaire un besoin naturel. Du coup tout le monde a attendu, on a vu les Movistar se positionner à l'avant de ce groupe de favoris mais occuper toute la largeur de la route. On a attendu, tout le monde est rentré, même Simon Gerrans qui était la principale victime de cette chute. Tête de course toujours composée de 13 coureurs avec notamment Chris Anker Sørensen, le champion d'Allemagne André Greipel, le grimpeur espagnol de la formation Cofidis Dani Navarro, également présent trois Français, Brian Coquard et Sylvain Chavanel pour Direct Energy, ainsi que Cyril Lemoine dit Moineau chez Cofidis. Ces 13 là sont en direction de Mazan puis de Bédouin qui marquera le pied de la montée vers le chalet Reynard dans l'ascension du Ventoux. 9 minutes 20 à 26 km de l'arrivée, l'avance qui est devenue un peu plus confortable grâce à ce fait de course.
Et ça redonne espoir effectivement aux hommes de tête. Cyril, on va en reparler dans quelques instants. On repart vers l'avant de la course avec la moto RMC, Georges Quirino, puisque c'est l'heure de la musette. On a été interrompu tout à l'heure par ce fait de course, mais Georges nous parlait d'un coureur, c'est ça, d'un coureur qu'on connaît bien évidemment et qu'on suit depuis des années dans l'Intégral Tour.
C'est ça, et juste avant de vous donner cette information, juste pour vous signaler qu'ils ne sont désormais plus que 12 à l'avant, puisque Brian Coquard a levé le pied, le sprinter français de l'équipe Direct Energy, qui s'est laissé décrocher de ce groupe de tête. Ils ne sont donc plus que 12, oui, des nouvelles. Donc c'est une scène assez cocasse que l'on a eue ce matin au départ à Montpellier, devant la place de la Comédie. Un coureur qui a décidé que lui, il irait jusqu'au sommet du Mont Ventoux. Il l'a exprimé en total désaccord avec la décision qui a été prise par les organisateurs et notamment par Christophe Prudhomme. Oui, c'est assez rare, mais c'est vrai que c'est un coureur qu'on a l'habitude de voir. Souvenez-vous, c'est l'Italien Eros Rastafumeto. Il a 50 ans, il dispute son 35e Tour de France, lui qui a débuté à l'âge de 15 ans. C'était assez exceptionnel à l'époque. Eros Rastafumeto, qui, souvenez-vous, déjà il y a quelques années, lorsque le Tour avait gravi l'Alpe d'Huez deux fois dans la même journée, avait voulu gravir les 21 lacets à trois reprises. Lui, et bien voilà, il a voulu et bien faire cette ascension mythique du Mont Ventoux. Il a exprimé sa colère ce matin. Il a été retenu d'ailleurs par des membres de la sécurité parce qu'il voulait vraiment s'en prendre à Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, que l'on a rencontré évidemment pour réagir après cette affaire Rastafumeto que l'on verra lui au sommet du Mont Ventoux. On écoute Christian Prudhomme donc suite à cette réaction d'Eros Rastafumeto.
Ah, écoutez, s'il veut continuer, la route est libre. Il va se heurter à des rafales de 120-150 km/h. Pour le classement, évidemment que ça ne pourra pas compter. Il faudra que vous alliez poser la question à l'Union Cycliste Internationale. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui a souvent pris ses aises ces dernières années, et depuis longtemps d'ailleurs, puisque sa carrière est d'une longévité exceptionnelle. Ah, voilà, il veut faire un nouveau coup d'éclat, on verra bien ce que ça donne. Je lui souhaite bonne chance, mais en marge du classement.
Voilà, Eros Rastafumeto qui fait notre délice depuis des années. Et Christian, comprend finalement la position du coureur. On peut la comprendre, Cyril, quand on a comme ça prévu d'escalader le Ventoux en entier. Bah voilà, il sera le seul aujourd'hui à passer au sommet du Ventoux, si évidemment le vent le permet, parce que n'est pas sûr qu'il redescende.
Oui, mais voilà, enfin. Sur ce tour, on a un vrai coureur.
Alors, je sais que t'aimes pas le panache, mais lui, il en a du panache quand même. Hein.
Oui, là, pour une fois, je suis d'accord.
Ouais.
Pour une fois, je suis d'accord, parce qu'en plus, il remet en cause des codes, des habitudes qu'on a pris depuis quelques temps. Il veut rester à l'ancienne. Il veut rester à l'ancienne et il veut aller jusqu'en haut parce que c'était prévu au départ du Tour de France.
Il n'y
a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Et moi, je suis derrière lui, je suis fan.
Ouais. Moi, je sais pourquoi il veut aller là-haut. Parce que s'il est le seul
Rastafumeto a passé le sommet aujourd'hui.
Il sera le prime peut-être, non ?
Il sera le deuxième Eros dans l'histoire du Mont Ventoux à passer.
Exactement, tu as raison, Eros
Poli. Derrière Eros Poli, et ouais, ça ouais. C'est important pour lui. Ils sont de la même nationalité. Il y a, ouais. Entre transalpins, il y a une vraie guerre, vous savez. Il veut égaler ce record, et à mon avis,
ils sont de la
ça.
Même génération en plus. Hein.
Ils ont à peu près le même âge.
Ouais, ouais. Ils t'ont vu débuter, et ils sont toujours là. Ouais. Hein. C'est pas des faiblesses comme toi.
Quoi. La longévité, mais il s'entraînait pas beaucoup. Hein. Eros Rastafumeto, il fait 1000 km avant d'arriver au tour, il est tout de suite en forme.
Ouais. Eros Rastafumeto qui terminera la journée avec Jérôme Pinot, on l'a appris ce matin, à la Licorne d'Or à Carpentrade, qui est un club bien connu des aficionados de la région.
Ouais, tu les connais tous par cœur, Fred, on va finir par s'inquiéter pour toi.
La carte de France des clubs libertins, ça il connaît, Fred. Rassurez-vous, Jérôme également.
Chérie, si tu m'écoutes, c'est Fred Adam, hein, le responsable.
24 km de l'arrivée, on s'arrête sur le bord de la route pour reprendre nos esprits. La Licorne d'Or, donc, hein, c'est ça.
Il faut demander à Fred, je ne sais pas où est cet endroit, mais Fred a l'air de bien connaître.
Ah, vous nous donnez les adresses pour Jérôme, auquel s'il ne les connaît pas toutes, comme ça jusqu'à l'arrivée à Paris. Donnez-nous vos bonnes adresses, Jérôme Pinot se fera un plaisir de les citer à l'antenne. Allez, 15h56, on laisse passer les
infos. Je peux faire le chauffeur, je vous emmène.
Et on revient juste après les infos.
Moi, perso, je n'irai pas, mais Fred a l'air payant de ce genre d'endroit.
23 derniers kilomètres de cette étape, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour.